Nous allons passer la parole à Bernard Salingros.
Merci. C'est redoutable ce que vous m'avez donné comme exercice, Madame Defebvre. Mais c'est ça qui est intéressant et je vous remercie de m'avoir invité. Vous savez que je ne suis pas dans un public conquis, que ce soit mes confrères ou les syndicalistes auxquels je fais des formations régulièrement. Alors je suis médecin du travail, j'exerce depuis 34 ans dans le sud de la France et avant j'étais médecin des mines pendant quelques temps. À la fin de mes études, j'ai hésité entre médecine du travail et psychiatrie, j'ai fait les deux, ce qui m'a donné un peu de background pour étudier les problèmes qui émergent de risques psychosociaux, de stress, etc. Et je suis syndicaliste. Je suis président du syndicat de la santé au travail de la CFE-CGC. Et à ce titre-là, j'ai quelques représentations dans des institutions qui concernent la santé au travail en général. Alors, réinventer le travail, la santé au travail, c'est bien de dire réinventer, ça veut dire que ça a déjà été inventé, effectivement. La santé a toujours été consubstantielle au travail. Aussi loin que vous avez des traces humaines de travail, aussi loin vous trouvez des réflexions sur la santé liée au travail. Je crois que du côté des Chinois, dans l'an 2-3000 avant notre ère, du côté des pyramides, etc., on en trouve. Mais pour aller plus proche, un des travaux les plus structurés, ça a été d'ailleurs la première maladie professionnelle qui est reconnue en France, c'est le saturnisme, le plomb, la maladie du plomb. Elle a été découverte, formalisée par un médecin dont peu de gens savent qu'il a été médecin avant d'être un homme politique célèbre, c'est le docteur Clémenceau. Clémenceau, le tigre, était d'abord médecin généraliste à Montmartre et s'occupait beaucoup. Il y avait beaucoup de peintres qui étalaient la céruse à la main et qui avaient des tremblements, des néphrites et des tas de pathologies. Et il s'étonnait que autant le plomb, autant les toxiques étaient sévèrement gardés chez les pharmaciens, autant chez les droguistes, on pouvait les obtenir très facilement. Et il a fait des éditoriaux dans l'Aurore pour qu'on reconnaisse et qu'on soigne ses patients qui sont remarquables. Je vous invite, si vous êtes un peu bibliophile, à les retrouver, parce qu'on les retrouve. C'est tout à fait d'époque. Actuellement, rien n'est inventé. Tout dépend de cette époque-là. On a donc cette médecine du travail protectrice avec cet exemple-là. Mais d'un autre côté, on a aussi la médecine du travail telle qu'elle a été inventée et mise sur pied, du moins dans sa structure, par Pétain. Et cette médecine du travail est une médecine du travail qui n'est pas protectrice, qui est sélective. C'est the right man at the right place. Bon dire, choisis le meilleur homme en fonction de la machine et du process qui est disponible. Ce système a une logique tout à fait défendable, mais qui n'est pas celle de la médecine du travail, mais ça s'appelait médecine du travail. C'est un peu le Canada Dry, quoi. Hein, bon. À la libération, on a changé de politique, on a changé d'homme, de conception. Et on a pris le système, on a gardé les hommes et la structure et on a inversé l'objectif de 180 degrés. Et on a dit que c'est éviter l'altération de la santé au travail. Et vous reprenez le Code du travail, c'est d'ailleurs dans les premiers textes, on dit bien que c'est éviter l'altération de la santé au travail. Et texte en L et texte en R. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. On vous décrit l'action du médecin du travail. Il doit visiter les lieux de travail, les lieux de cantine, s'occuper des risques d'infection, s'occuper des bons gestes, des matériaux, etc. Nulle part, il est dit qu'il fait d'actes médicaux. Nulle part. Or, dès son installation, ça a été une usine à produire de la visite médicale. Il y a là une déviation sémantique qui est très forte. Mais pour revenir à cet exemple d'inversion entre Clémenceau, Pétain et la Libération, on a vu que les mêmes acteurs, la même structure, peuvent avoir des objectifs tout à fait différents. L'un, de protection des salariés, l'autre, d'adaptation des salariés. Et ces deux courants, vous les trouvez en continu. Et ne pas les voir, c'est ne pas comprendre la situation qui se passe actuellement. Sous couvert de, j'en parlerai plus tard, de pluridisciplinarité, d'approche, de mieux compréhension, si on n'a pas cette clé qui est une des clés, pas la seule, mais une des clés, on n'a pas la bonne compréhension de l'ensemble du système. Et on a donc, c'est comme vous disiez, c'est l'employeur avec l'organisation et c'est le salarié avec le comportement. On retrouve ça. Et à la Libération, donc, on voit cette démarche qui est portée sur l'analyse des conditions de travail et pour ce faire, il est dit que le médecin visitera les lieux de travail et secondairement, en bout de la liste des actions à faire, il pourra faire des examens médicaux. D'ailleurs, il est prévu qu'il fasse des fiches d'entreprise, c'est-à-dire des descriptions des situations de travail avec son analyse. Disons, là, c'est dangereux, là, c'est pas dangereux. analyse qui doit être prise en compte par l'inspection du travail pour, en tant que gendarme, en tant que réglementaire, dire ça, la société ne le permet ou ne le permet pas. Analyse qui doit être prise en compte par l'agent de la CRAM, l'assureur, qui doit dire ça, c'est un risque que j'assure pas ou alors je majore. Cette belle construction n'a pas été appliquée. Et on a continué avec, pour beaucoup de choses, l'ambiance et les acteurs du système mis en place du temps de Pétain. C'est cette tension entre ce qui est affiché à la Libération et ce qui est fait dans la pratique qui explique beaucoup de choses. En même temps, vous avez des médecins qui n'avaient pas un corpus d'enseignement aussi puissant qu'actuellement sur l'ergonomie, sur l'ergonomie cognitive, maintenant on en est à la neuroergonomie, etc., sur la toxicologie, etc. Et puis, il y avait peu de médecins, il y avait une sous-médicalisation. Donc, un médecin, la première chose qu'il voit, c'est de soigner les maladies. Et c'était l'époque de la tuberculose, de la silicose. Ce n'était pas des choses en l'air. Hein. Les gens souffraient et on rendait service en faisant du dépistage et des radioscopies à la foule. Cependant, il y a des médecins qui travaillaient. Et ce qui était étonnant, c'est de retrouver... Moi, je connais encore des médecins qui ont... plus de 80 ans, qui viennent de temps en temps ou qui me téléphonent et qui me racontent leurs travaux et que je retrouve dans la littérature. Des travaux sur la psychologie, ça existait déjà dans les années 55 avec le professeur Sivadon. Il y avait toute une équipe avec Nevegli, Sivadon, qui a travaillé sur la psychologie de groupe, sur le leadership, etc. Mais c'est resté dans les bibliothèques. Il y a tout des travaux qui sont restés, qui ont été faits sur l'amiante, sur la silicose. Mais c'est resté dans les bibliothèques. Et on dit avec dans les médias que les médecins du travail n'ont pas fait leur travail. Sauf que les pouvoirs publics et la société n'avaient pas ce souci de mettre en évidence ces problèmes-là. Ça n'est que depuis peu que ce souci de la santé au travail émerge. Mais ça n'est pas 10 ans que ça devient la patate chaude, quoi. Et ça fait avancer les choses, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et la médiatisation y concourt. Alors dans cette évolution, donc, on a eu non seulement Sivadon, mais après on a eu Casamian qui venait des Houillères, qui a travaillé et qui travaille toujours, parce qu'il publie encore, il a plus de 85 ans, le monsieur, qui a fait tout un enseignement à la Sorbonne sur l'ergonomie. L'ergonomie et l'écologie humaine, j'ai suivi son enseignement pendant quelques années, c'était remarquable. Et c'est toujours remarquable puisque Hubo a pris la succession. Ça a été ensuite une évolution avec Wissner, avec Dejour, avec Davesi, tout ça. On a vu l'ergonomie qui progresse et qui devient de plus en plus intéressante. D'ailleurs, ça remontait tellement fort qu'en 1979, les pouvoirs publics ont dit quand même aux employeurs qui géraient la médecine du travail, qui gèrent la médecine du travail, c'est le problème de fond. Parce que c'est ça l'erreur qu'ont fait les gens de la Libération, c'est qu'ils ont donné une mission à ces acteurs qui soit antinomique avec la structure qu'ils construisaient. C'est difficile à un employeur d'accepter qu'un acteur vienne le critiquer dans sa gestion. Alors pour critiquer le choix des chaussures de sécurité ou la qualité de la cantine, ça va, ça passe bien. Mais pour lui dire que son organigramme, que sa façon de faire est mauvaise, ça passe très mal. Donc il y a une poussée des employeurs pour que les médecins du travail restent dans leur cabinet et fassent de la visite médicale. Il y a ça aussi qui joue. Alors, le médecin, parce que naturellement, il est attiré d'abord par la médecine, par sa filière de formation, mais aussi parce que c'est l'intérêt de l'employeur. Et en 79, ces initiatives à droite et à gauche ont poussé au fait que les pouvoirs publics ont ressenti qu'il y avait là besoin de forcer un peu la main aux employeurs qui ont toujours la gouvernance de la médecine du travail, de la santé au travail, et ont imposé le tiers-temps, qui n'est pas appliqué encore au jour d'aujourd'hui. Mais qui, pour un petit peu, permet que les médecins du travail puissent aller sur le terrain, puissent aller faire leur travail qu'originellement c'était prévu, et c'est toujours prévu dans le Code du travail, même recodifié. Donc, actuellement, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Vous en avez certainement entendu parler dans la santé au travail. C'est la pluridisciplinarité, c'est la démographie médicale, vous en avez touché un mot tout à l'heure, et c'est les problèmes d'indépendance, d'éthique, et de statut, et de gouvernance. Alors la démographie, on dit, en s'apitoyant la main sur le cœur, « Ah, mais dans 10 ans, il n'y aura plus de médecins du travail. » Ce n'est pas complètement vrai, mais ça laisse entendre qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une tension et une grosse difficulté. Une grosse difficulté dans les services qui sont mauvais, que les gens fuient. Je peux vous dire que je connais beaucoup de services où ça ne pose pas encore de problème. Et l'autre problème, c'est que Au jour d'aujourd'hui, s'il y a 7000 médecins du travail, il y a plus de la moitié des médecins du travail qui ne travaillent pas à temps plein. Je ne connais aucune autre profession aussi attirée par le temps partiel. Et je peux vous dire, on a beau dire que c'est parce que c'est beaucoup de dames qui travaillent, que ces dames-là, elles ont fait médecine et que vous n'avez pas le diplôme de médecine dans une pochette surprise, vous pouvez essayer, vous m'en reparlerez. Donc elles ont une expérience de travail, elles ont une volonté de travail. Et le problème, c'est qu'on ne leur donne pas la possibilité pour beaucoup de s'investir et que les possibilités ne sont pas attractives. Il faut savoir que le métier de médecin du travail est le moins rémunéré, ce n'est pas pour rien qu'il est le moins choisi dans la sélection de l'internat. Donc, on a un problème de réalité de cette démographie au jour d'aujourd'hui, mais c'est vrai que dans 5-10 ans, mais c'est vrai pour beaucoup de métiers, et ça va l'être, si on part à 30 ans, ça l'est aussi, mais c'est vrai que dans 10 ans, il y aura un problème de génération, il y aura un problème de fond. Mais on a fait des propositions au ministère depuis 10-15 ans. Elles sont restées lettres mortes. On en a fait encore récemment qui ont été reprises par le rapport Frimin, qui sont pas mal, de pouvoir permettre aux médecins traitants de se reconvertir facilement en médecin du travail. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nos technocrates, ils ont inventé une formation des médecins du travail qui, comme les médecins généralistes maintenant, doivent passer par l'internat. Ce qui fait que si vous êtes généraliste, vous ne pouvez plus faire médecin du travail après une formation comme on le faisait il y a 20 ans, ou bien si vous êtes médecin du travail, vous ne pouvez plus revenir médecin généraliste. Il faut que vous repassiez l'internat et 4 ans de formation. C'est une aberration. À Bac plus 8, on vous refait faire 4 ans de formation. C'est une erreur technocratique tout à fait malthusienne. D'ailleurs, lorsque j'ai posé le rapport de la CGC sur le sujet et que je l'ai présenté à M. Woerth, je lui ai dit, écoutez, moi je connais un HEC très brillant qui est passé du ministère de l'économie au ministère de la Santé au Travail, en peu de temps et avec brio. Je ne vois pas pourquoi des Bac plus 8 ne seraient pas capables de faire avec un peu d'adaptation la même chose. Donc c'est construit tout ça, ce n'est pas si simple. Le problème de la pluridisciplinarité. Le problème de la pluridisciplinarité correspond à un besoin qui est le même que celui des médecins du travail de pouvoir aller sur le terrain, parce que l'origine du problème du médecin du travail, de sa solution, c'est sur le travail. D'ailleurs, c'est simple, on dit bien médecin du travail, on ne dit pas médecin des travailleurs. Vous avez remarqué, c'est pas pareil. Eh bien, pour certaines techniques, pour certaines mesures, le médecin, s'il veut spécialiser, il peut le faire, mais il a besoin d'aide parce qu'il n'a pas 4 bras et puis il n'a pas un temps extraordinaire. Donc, il y a des tas de choses où c'est nécessaire qu'il ait des aides, que ce soit pour une mesure d'un coefficient de salle au niveau sonométrique ou que ce soit pour l'analyse socio-psycho-managériale du la construction d'une organisation entre les différents services, leur interaction et l'organigramme, parce que vous savez qu'un organigramme plat ou un organigramme en pyramide, ça ne donne pas les mêmes effets sur le psychisme des gens. Donc là, on a besoin de bras, si je l'ai. Mais le problème de fond, ce n'est pas ça. On a besoin de gens et on peut les financer. Le problème, c'est que ces gens sont délibérément placés en situation de dépendance à l'employeur. Autant le médecin du travail a une indépendance statutaire, on ne peut pas le licencier facilement, autant les autres, non. Moi, je connais plusieurs IPRP, c'est-à-dire des techniciens en mesure de son, par exemple, qui ont cru que comme le médecin, il pouvait aller sur les chantiers et mesurer le bruit, comme il gênait l'entreprise en question, du jour au lendemain, ils se retrouvaient dehors. Et c'est tout, ils ont le droit de rien dire. Ils auront une prime un peu plus conséquente parce qu'ils font un procès, mais ils n'ont pas de protection. Donc on a un problème, non pas de pluridisciplinarité au sens de besoin, mais de pluridisciplinarité au sens de statut, au sens de partage d'éthique, au sens d'une nécessité d'indépendance commune. Et après on verra la coordination, mais ça c'est pas le plus important, la coordination avec de la compétence et de l'éthique partagée, ça va assez vite à faire. Donc les vrais enjeux, vous l'avez compris, ce n'est pas tellement le nombre de bras, c'est surtout la possibilité de travailler dans le sens où cette institution a été créée. Et pour ce faire, c'est aussi la nécessité d'une gouvernance qui ne soit pas uniquement donnée aux employeurs. C'est ce que nous, à la CFE-CGC, on réclame, parce qu'on ne peut pas bien fonctionner, aller critiquer une entreprise et être en situation de dépendance. Et d'autant plus que, et ce n'est pas un secret maintenant, ça a été suffisamment rapporté par la presse, nombre de services de santé au travail sont des instances, on va dire, financières pour les représentations patronales. Dans beaucoup d'instances. Il y a eu une étude qui a montré que 66% des services étaient délogés dans la même instance et dans la même société civile de moyens que la représentation patronale locale dans chaque département. Donc il y a un problème de contrôle financier. Il y a un problème d'adéquation des moyens aux objectifs, qui actuellement n'est pas satisfaisant. Donc réinventons la santé au travail, oui, mais réinventons une santé au travail qui soit de qualité, de compétence et dans une structure, dans une organisation qui lui permette de fonctionner pour l'objectif officiel. Alors, ça, c'est le cadre général. Après, il y a des sujets qui sont intéressants parce qu'ils sont porteurs de beaucoup d'incompréhension. L'aptitude, par exemple. La fiche d'aptitude, il y a des gens qui vous disent que c'est ringard, que c'est pétainiste, que ça se retourne contre le salarié, que c'est honteux de faire apte au cancer, etc. etc. Nous, ce n'est pas la vision qu'on en a. Ce n'est pas la lecture qu'on en a. Ce n'est pas la lecture des juristes non plus. Pour nous, l'aptitude, c'est une protection du salarié, et c'est comme ça que les juges le voient. Non seulement une protection parce que ça permet au salarié que l'employeur ne s'intéresse pas à sa santé. C'est une protection de la confidentialité. Sinon, l'employeur, dans sa recherche d'optimisation des moyens, s'intéressera à la santé des salariés. Et ça, c'est incontournable. Et dans les pays où ça n'existe pas, c'est ce qui se passe. Aux USA, vous êtes embauché avec votre carte génétique dans le dossier d'embauche. Donc, si on ne veut pas ça, il faut bien qu'il y ait une interface. Et par ailleurs, ça permet énormément d'aménagement de poste, d'échanges avec les employeurs qui ont une certaine efficacité. Et à un moment où on parle de maintien dans l'emploi, il y a beaucoup de maintien dans l'emploi qui se font, qui ne sont pas tout à fait bien comptabilisés, mais qui se font par ce biais-là. Alors un dernier mot, parce que c'est important, et après j'arrêterai, ça reviendra, on verra au niveau des questions. Vous avez parlé du CHSCT et de son fonctionnement. Le CHSCT est décevant alors que c'est bien construit. Mais la clé de dysfonctionnement, et c'est pour ça que la CGC en milite dans ce sens-là, c'est que c'est une élection de Sénat. Ils sont élus au deuxième tour, il faut le savoir. Ils sont élus par ceux qui sont élus. Et bien souvent, on y met ceux qu'on n'a pas su mettre ailleurs. Ceux qui sont brûlés le syndicalisme, parce que ça existe aussi, la lutte syndicale dans les entreprises, même celle du CAC 40. Il faut protéger les gens. Donc on les met au CHSCT, puisque là, bah, on a chacun une place, etc. C'est pas reluisant, mais c'est la réalité. Et puis, quelquefois, il y a des fondus, des partisans, des spécialistes de la santé au travail, et là, qui se branchent. Nous, on est partisans d'une élection directe. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur moyen de publicité dans une entreprise. C'est le meilleur moyen de rendre compte pour ceux pour qui on est là. L'élection directe, ça a l'avantage de la clarté. Si les gens ne sont pas d'accord, ne sont pas contents, ben, ils changent de représentant. Et s'ils sont d'accord, ben, on continue à avoir ce représentant. Alors, une dernière chose, et j'arrêterai là. Un petit mot sur les négociations stress et les accords qui fleurissent à droite et à gauche. À part quelques perles sur le tas de fumier, c'est effarant. De similitude et de perversité. Parce que qu'est-ce qu'on construit ? On construit des choses où on voit systématiquement présentées de façon plus ou moins technocratique, évoluée, suivant les conseils des entreprises, bien que les salariés, parce que comme c'est des braves, ils signent et puis ils ne se rendent pas compte, que ben, les problèmes de risques psychosociaux et de stress, ben, c'est eux qui les amènent, mais pas l'entreprise. À l'organisation, que c'est un problème personnel, qu'on est bien gentil de s'en occuper un petit peu, et qu'on va faire une instance, parce qu'on disait que le CHSCT, c'est pas brillant, mais on va faire une instance qui contourne le CHSCT. Pourquoi ? Parce que le CHSCT, ben, c'est quand même une instance qui est construite où les salariés ont une protection légale pour pouvoir justement critiquer l'employeur. Et bien, dans ces instances ad hoc, et bien clair que le salarié qui sera là sera sous la coupe du DRH. Et le CHSCT, il a des moyens. Il peut demander une expertise et la faire financer. Le groupe ad hoc, ben, il demandera, monsieur, excusez-moi de vous demander pardon. Ah non, je n'étais pas d'accord. Bon, ben, je retourne dans mes chères études. Voilà, je crois qu'on verra avec les questions. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci.